Alors, bienvenue à tous à cette nouvelle présentation sur édification.bible. On vous invite à avoir vos Bibles en main pour pouvoir regarder les passages et puis profiter davantage de cette présentation. Bien sûr, on remet ces moments au Seigneur pour que lui bénisse et dirige ces moments et nous fasse du bien par sa parole. Le sujet que j'aimerais présenter aujourd'hui, que nous pouvons regarder ensemble, est celui qui se pose parfois lorsque nous nous questionnons en nous demandant comment ça se fait qu'on a tant d'hésitations parfois dans le service du Seigneur, que ce soit pour des choses qui semblent grandes ou des choses qui semblent parfois même petites. Et on se pose la question, est-ce que je devrais agir ou est-ce que je ne devrais pas agir? Est-ce que je devrais faire cette chose-là ou est-ce que je ne devrais pas faire cette chose-là? Il y a plusieurs façons d'aborder ce sujet, il y a plusieurs thèmes qui peuvent être abordés autour de ce sujet, mais j'aimerais aborder le sujet d'une façon particulière, et c'est en regardant la question du point de vue de la crainte, de la désapprobation. Une chose qui peut souvent nous arrêter dans le service du Seigneur, c'est la désapprobation. On verra comment on peut l'appeler autrement, mais c'est le titre que je désirais donner à cette présentation. La désapprobation, ou qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui nous paralyse dans le service du Seigneur. Parfois, en effet, on se demande si telle ou telle chose devrait être faite, et puis on se questionne énormément au lieu de faire le travail, justement. Encore une fois, il y a plusieurs sujets qui pourraient être abordés, mais on va regarder celui de la désapprobation en tant que telle. Alors, qu'est-ce qui nous paralyse? On peut remarquer dans ce tableau simple qui a été fait la façon que j'aimerais présenter le sujet, que nous le regardions ensemble. Il y a la désapprobation et l'approbation qu'on peut rechercher lorsque on sert pour le Seigneur. Mais à qui est-ce que nous regardons? Est-ce que nous regardons aux hommes ou est-ce que nous regardons à Dieu? Donc, il peut y avoir trois zones dans lesquelles des choses peuvent nous paralyser pour le service et une qui est bonne, qui va nous faire avancer dans le service. Donc, on pourrait parler, si on veut, de crainte des hommes ou de la peur des hommes même. En français, on peut utiliser ces deux mots. Et puis, il y a aussi la crainte de Dieu et peut-être même la peur de Dieu. Donc, on pourrait avoir des peurs qui seraient infondées aussi. On va regarder en détail qu'est-ce qu'on veut dire par la désapprobation et qu'est-ce qu'on veut dire par à qui est-ce que nous regardons? Et comment ça se fait qu'on peut avoir peur, une peur paralysante de la désapprobation de Dieu qui nous ferait empêcher d'aller dans le service? Donc, avec la grâce de Dieu, regardons ensemble ce premier thème, la peur des hommes, la désapprobation. En français, on est chanceux, on peut jouer avec les mots ici. On a la peur, on a la crainte. Je prends le mot « peur » pour vraiment mettre l'accent sur l'émotion vécue, une émotion forte envers les hommes qui nous ferait craindre la désapprobation. J'aurais pu utiliser l'expression « la crainte des hommes » aussi, qui revêt un peu la même chose, mais la crainte a vraiment plus, c'est plus une attitude continuelle de l'esprit. Donc, je laisse de côté, on va aller avec la peur des hommes, la désapprobation. Donc, premièrement, la peur des hommes. On peut trouver un exemple dans la parole de Dieu au sujet de quelqu'un qui a eu la peur des hommes, une crainte des hommes très forte qui lui a empêché de faire le bon choix. Et c'est dans le roi Sédécias. On va regarder dans la parole, dans le chapitre 38 de Jérémie, qu'est-ce qui est arrivé à Sédécias comme exemple de quelqu'un qui a peur des hommes et que ça lui empêche de faire ce qui est la bonne chose de faire. Donc, dans Jérémie 38, on trouve au verset 14 jusqu'au verset 23 une rencontre secrète entre Sédécias et Jérémie. L'armée des Nebuchadnetsar est sur le point d'arriver pour prendre la ville. Et à vrai dire, ils sont déjà arrivés pour prendre la ville. Et puis, c'est le siège. La situation est vraiment difficile. Et puis, Sédécias fait venir Jérémie en secret pour lui poser une question, pour savoir qu'est-ce qu'il devrait faire. Mais Jérémie lui dit, écoute, si je te dis la vérité, est-ce que tu vas te débarrasser de moi? Là, je sais que tu ne seras pas content d'entendre ce que je vais te dire. Puis Sédécias lui promet, non, non, je ne te ferai rien, puis je ne te livrerai pas à tes ennemis. Il voulait avoir la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on lit au verset 17 jusqu'à 23, et spécialement le verset 19? Regardons bien. Et Jérémie dit à Sédécias, ainsi dit l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, si tu sors franchement vers les fils du roi de Babylone, ton âme vivra, et cette ville ne sera point brûlée par le feu. Mais tu vivras, toi et ta maison. Mais si tu ne sors pas vers les princes du roi de Babylone, cette ville sera livrée en la main des Chaldéens et ils la brûleront par le feu. Et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. » Et le roi Sédécias dit à Jérémie, regardons bien sa réponse ici, c'est vraiment le point important, au verset 19. « Je crains les Juifs qui se sont rendus aux Chaldéens. J'ai peur qu'on ne me livre en leurs mains et qu'ils ne me maltraitent. » Et Jérémie dit, « On ne te livrera point. Écoute, je te prie la voix de l'Éternel dans ce que je te dis, et tout ira bien pour toi, et ton âme vivra. Mais si tu refuses de sortir, voici la parole que l'Éternel m'a fait voir. Voici toutes les femmes qui sont de reste dans la maison du roi de Juda seront menées dehors vers les princes du roi de Babylone, et elles diront, « Tes familiers t'ont entraîné, ils ont prévalu sur toi, tes pieds se sont enfoncés dans le bourbier, ils ont glissé en arrière. Et toutes tes femmes et tes fils, on les mènera dehors vers les Chaldéens, et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. Et tu seras pris par la main du roi de Babylone, et tu feras que cette ville sera brûlée par le feu. » Donc, on voit au verset 19 que même malgré le fait qu'il a entendu la parole positive de Dieu, qui lui disait « Va, livre-toi, tout va être bien pour toi, ça va être payé, il n'y a pas de problème. » Sédécias, il dit qu'il avait peur. Il avait peur des Juifs qui s'étaient déjà rendus aux Chaldéens. Il avait peur qu'il allait être livré entre leurs mains et qu'il allait lui faire du mal. Il avait peur de la désapprobation de ses pères, des Juifs qui s'étaient déjà rendus, qui pourtant avaient écouté la parole de Jérémie. Jérémie avait dit depuis longtemps, « Rendez-vous, tout ira bien. » Et il répète le même message ici à Sédécias. Mais Sédécias, il avait peur. Et on trouve cette expression intéressante au verset 22. « Et elles diront, tes familiers t'ont entraîné, ils ont prévalu sur toi. » Tes familiers, ceux de ton entourage, de ta famille, ceux à qui tu fais confiance, tes familiers ont prévalu sur toi. Autrement dit, Sédécias, il avait non seulement peur de son peuple qui s'était déjà rendu aux mains de l'ennemi, mais il avait aussi peur de ceux qui l'entouraient, que s'il allait se livrer au roi de Babylone, il allait vraiment passer un mauvais quart d'heure. Eh bien, pour nous aussi, à l'exemple de Sédécias, parfois, lorsqu'on aborde la question de servir Dieu, peut-être dans un domaine particulier, de faire une œuvre en particulier, il peut y avoir la peur des hommes qui vient à notre esprit. On se met à avoir peur des difficultés qui pourraient être les nôtres en cas de désapprobation. Et puis, on pense que toutes sortes de misères vont tomber sur nous, toutes sortes de peines, toutes sortes d'adversités, toutes sortes de douleurs, des épreuves, des tribulations. Et puis, on pense que ce que les hommes vont nous faire, ça va être même de Dieu, que Dieu va approuver ça, que c'est tout ce qu'on mérite de se faire châtier puis de souffrir comme ça pour son service. Et puis, on se met à avoir une image tordue de qui est Dieu aussi à travers tout cela. Donc, cette crainte qu'on a de l'opinion des autres, des conséquences négatives qui pourraient nous arriver à cause de cela, font en sorte qu'on se remet en question. On se dit, mais là, je vais prier. Puis on prie Dieu pour savoir est-ce que je dois vraiment faire ça. Puis dans les faits, Dieu, il ne va peut-être pas vraiment nous répondre à cause de cela. Pourquoi est-ce que la prière pourrait rester silencieuse dans un cas comme cela? Parce que notre prémisse, notre motivation première à nous questionner sur si on devrait faire la chose, elle est déjà mauvaise. Nos regards sont sur les hommes et sur la désapprobation qui pourrait en découler. Et cela nous fait peur. Ça fait en sorte que comme résultat, on est paralysé, on est rempli de doutes, on est rempli de craintes. Et à cause de cela, la conséquence qui arrive, c'est qu'on ne va rien faire au bout du compte. Mais on va se mettre à prier, puis à prier, puis à se demander, est-ce qu'on doit faire cela? Puis finalement, on va se dire, non, il y a trop de risques. On est paralysé dans le service de Dieu. Pourquoi? Peut-être que ce qui était venu à notre pensée ou à notre cœur, et je ne parle pas ici de la direction de l'esprit, comme je vous dis, on peut aborder le sujet de plusieurs angles, mais je le prends seulement sur cette approche de où sont nos regards. À cause de là où sont nos regards sur les hommes et sur la crainte de leur désapprobation, eh bien, on devient paralysé et on se questionne inutilement sur des choses que peut-être Dieu nous aurait jamais conduit à nous questionner à la première place. Les conséquences réelles, quelles elles sont? Parce que tout ça, ça s'est passé dans notre tête jusqu'à ce point-ci. Eh bien, il pourrait y avoir une véritable discipline paternelle de la part de Dieu pour qu'on apprenne à le connaître. Et j'aimerais ici faire attention et faire une nuance. Quand on est jeune croyant ou qu'on connaît mal Dieu, on a l'impression que quand on parle de discipline de Dieu, que c'est tout le temps des choses douloureuses, pénibles et terribles qui vont tomber sur nous et nous arriver. Et c'est encore là une mauvaise image de qui est Dieu. Oui, la main paternelle de Dieu peut se mettre sur ses enfants en différentes circonstances pour nous discipliner, mais dans le but de nous faire du bien. Il y a un beau cantique qui dit que jamais sa main nous blesse d'une façon qui est inutile, ou si c'est pas pour atteindre un but. Des fois, il doit émonder, en effet, il doit ôter des choses pour qu'on apprenne à le connaître, lui, véritablement comme il est. Et Dieu, il est bon. Et même s'il doit agir en discipline paternelle dans une situation comme cela, ce sera toujours une discipline mesurée et douce dans le but de nous gagner, à détourner le regard des hommes vers lui, vers Dieu. Dieu, il désire corriger notre Père céleste qui nous aime. Il désire corriger notre entendement et notre façon de penser pour qu'on pense justement et correctement. Et que nos regards ne soient pas tournés vers les hommes, mais vers lui. Alors ça, c'est un des premiers aspects qui peut faire en sorte qu'on est paralysé dans le service. Nos regards sont sur les hommes, on a peur des hommes, on a la crainte des hommes, on a peur de leur désapprobation. Quel est le deuxième aspect maintenant? Donc, on a vu la peur de Dieu, c'est le deuxième aspect. Donc, on a peur de la désapprobation, mais qui vient de Dieu cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On a un exemple, pas dans les rois de Juda cette fois-ci, mais dans le Nouveau Testament, une parabole que le Seigneur Jésus a donnée, la parabole des 10 mines. On va aller tourner rapidement dans Luc chapitre 19 pour voir cette parabole des 10 mines où on trouve un serviteur mauvais qui avait peur de son maître. Donc, dans Luc, chapitre 19, on va lire au verset 11 à 27, mais pour faire plus court, on va aller directement au but, au verset 20 à 24. Donc, on a cette parabole des 10 mines où il y a un homme riche qui s'en va dans un autre pays. On lit ça au début, au verset 12. Un homme noble s'en alla dans un pays éloigné pour recevoir un royaume et revenir. Et ça, ça nous parle du Seigneur Jésus. Il est allé dans un autre pays, il est au ciel présentement assis à la droite de Dieu pour recevoir le royaume. Et il va revenir. Et dans l'attente, il a donné 1 mine à chacun de ses 10 serviteurs. Et il donne une récompense à chacun de ceux qui ont fait valoir 7 mines pour la gloire du roi. Ici, c'est de l'homme noble, pour l'homme noble, pour nous, on fait valoir ce que le Seigneur nous a donné pour sa gloire. Eh bien, on a un des serviteurs qui, lui, a caché sa mine dans un linge, au verset 11, verset 20. Et un autre vint, disant, « Maître, voici ta mine que j'ai gardée déposée dans un linge. Car je t'ai craint, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas mis et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Et l'homme noble lui dit, « Je te jugerai par ta propre parole. Méchant esclave, tu savais que moi je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas mis et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Et pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? Et quand j'en serais venu, je l'eusse retiré avec l'intérêt. » Et il dit à ceux qui étaient présents, « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Ici, il y a un serviteur, il pensait connaître son maître. Il avait vu que son maître était un homme sévère, qui prend ce qu'il n'avait pas semé, je vais relire l'expression juste pour le dire correctement, car j'ai craint parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas mis, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Eh bien, à cause de cela, de cette peur qu'il avait, eh bien, il a caché la mine qu'il a reçue, puis elle n'a rien donné, cette mine-là. Et le jugement du maître a été sévère aussi de cet homme noble, de cet homme qui était maintenant roi, en effet. Il était allé pour recevoir un royaume. Eh bien, maintenant, il vient, et puis il va le juger sur cette même base. Est-ce que ça peut nous arriver, nous aussi, qu'on ait une fausse vision, une fausse compréhension, une vue incorrecte de Dieu qui fait qu'on a peur de sa désapprobation? On se dit, j'ai pas peur des hommes, mais j'ai peur qu'en faisant ça, ça déplaise au Seigneur. J'ai peur qu'en faisant ça, ça déplaise à Dieu. Mais pourtant, je le sais que c'est bon, mais peut-être qu'il veut pas que je le fasse. Puis cette crainte-là de déplaire à Dieu est tellement forte et tellement grande qu'on se dit, oh, si je fais quelque chose de mal, eh bien, sa discipline va tomber sur moi, je vais être châtié, il va avoir la désapprobation qui va venir sur moi, et puis ça va m'amener des peines, ça va m'amener des douleurs, ça va m'amener des épreuves, ça va m'amener des souffrances. Puis on se dit, non, moi, je veux pas être puni par Dieu, je préfère rien faire. Je vais rien faire, je vais pas le faire. Si je fais rien, ben, je serai pas discipliné, je serai pas jugé, je serai pas puni pour avoir fait quelque chose que c'était pas mon affaire de faire. C'est un peu l'esclave ici. Il avait tellement peur et crainte qu'il a pris ce qu'il a reçu, il l'a emballé soigneusement, il l'a mis de côté, il s'est dit, ah, moi, là, je touche pas à ça. D'un coup, que je fasse une gaffe, il va me retomber dessus, puis non, je veux pas ça. Ben, il a été mal surpris, hein. Il a été châtié à cause de cela. Il a été repris à cause de cela. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. On peut s'imaginer, on peut avoir une compréhension tellement fausse de Dieu. Peut-être que c'est aussi le diable, notre adversaire, qui vient nous chuchoter cela à l'oreille, qu'on se met à avoir peur de faire quoi que ce soit que ça pourrait déplaire à Dieu. On s'imagine que tout ce qu'il faut faire pour Dieu, il faut que ça soit parfait comme Dieu, il faut que ça soit exactement comme Dieu le ferait. Puis là, les standards sont tellement élevés, on se dit, ah non, moi, je ne suis pas capable d'atteindre ces standards-là. On laisse faire, je ne fais rien. Eh bien, malheureusement, les résultats de cela, c'est qu'on est paralysé et qu'on abandonne même l'idée de servir Dieu. On se dit, non, Dieu, il y a trop de risques, je préfère pas. Quel dommage d'être paralysé, bloqué dans un service qui pourtant pourrait être joyeux et heureux pour notre Dieu, pour le Seigneur Jésus, à la gloire de son nom, parce qu'on a une mauvaise compréhension de qui il est, de comment il est bon, il est doux, il est humble, il est patient et surtout, il est rempli d'amour envers nous. On va en revenir sur cela. Eh bien, on se met à abandonner toute idée de servir Dieu parce qu'on a peur que ça l'atteigne à notre bien-être. On a peur qu'il nous arrive des choses qui vont nous déranger et puis on n'a pas envie de cela. Eh bien, quelles sont les conséquences réelles de cela? Eh bien, il pourrait y avoir, encore une fois, une discipline paternelle qui vienne malgré tout. Une discipline paternelle pour que nous comprenions mieux qui est Dieu. Notre Dieu est Père, il est doux. Puis si on a une mauvaise compréhension, il veut nous enseigner comment il est lui. Dieu n'est pas selon nos imaginations. Dieu n'est pas comme les hommes. Peut-être qu'il y a des hommes qui sont comme ça. Que si on n'atteint pas leur niveau à eux, ça va pas bien, on n'a pas des félicitations, on a tout le temps des réprimandes, on a tout le temps « mais t'aurais pu faire mieux », puis peut-être que malheureusement, on a entendu ça dans le passé, même d'autres personnes qui sont des enfants de Dieu, après que quelque chose a été fait, « ouais, mais pourquoi t'as pas fait ci, mais pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi tu l'as pas fait ci comme ça », puis tout le temps des critiques. Dieu est pas comme ça, Dieu fait pas des critiques. Dieu veut nous aider à le servir et à faire ce qui est bon, bien et agréable devant lui. Donc, prenons garde à ce second piège. Ce piège d'avoir une peur de Dieu. On ne parle pas ici d'une sainte crainte de Dieu, là. Une peur de Dieu, comme ce mauvais serviteur ici, qui nous paralyserait dans tout service. Le Seigneur, il désire au contraire nous montrer qui il est véritablement et comment il désire nous utiliser et pour la gloire de son nom, pour le servir, pour que ce soit notre joie et pour sa joie à lui aussi. Regardons, examinons maintenant un troisième aspect qui peut nous paralyser dans le service. C'est la crainte des hommes, mais ici, on pourrait l'appeler autrement, on pourrait l'appeler la recherche de l'approbation des hommes. Donc ici, c'est une crainte des hommes. Je ne prends plus le mot peur, je prends une crainte pour faire un parallèle avec une crainte de Dieu. Des jeux de mots en français, parce que si on faisait une présentation en anglais, il n'y a rien qu'un mot en anglais, on ne peut pas faire ces jeux de mots-là, mais en français, on en profite. Donc, la crainte des hommes, on recherche leur approbation. Donc ici, ce n'est plus une question qu'on veut éviter les ennuis, mais on veut plutôt rechercher ce qui leur est agréable. On a un exemple de cela dans le roi Joas, un des rois de Juda. Tournons dans 2 Chroniques, chapitre 24. On va lire seulement un court passage, un verset, 2 Chroniques 24. Voilà, ça va aller mieux dans 2 Chroniques, parce que dans 1 Chronique, on ne trouvera pas grand-chose. 2 Chroniques 24 au verset 17. Dans Joas, on sait qu'il a été élevé par Jéhoïada, le souverain sacrificateur. Puis, tous les jours de Jéhoïada, Joas a fait des bonnes choses. Il a travaillé à la maison de l'Éternel. Il a fait des choses qui étaient bonnes et bien. Et quand Jéhoïada est mort, eh bien, Joas a changé son fusil d'épaule, comme on dit. Verset 17. Et après la mort de Jéhoïada, les chefs de Juda vinrent, s'inclinèrent devant le roi. Alors le roi les écouta. Voilà, pas besoin de faire de discours. Les princes y sont venus, les chefs se sont inclinés, ils ont cherché la faveur du roi, puis le roi, bon, ça l'a flatté peut-être, puis il les a écoutés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a abandonné la maison de l'Éternel, il a fait tuer le fils de Jéhoïada, Zacharie. C'est probablement ce Zacharie-là dont il est question dans le Nouveau Testament, lorsque le Seigneur Jésus parle de jusqu'à Zacharie le prophète pour les prophètes qui ont été tués par les Juifs. Eh bien, on voit que Joas s'est détourné d'un chemin qui était bon et selon la pensée de Dieu pour aller vraiment dans un chemin totalement contraire à la pensée de Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans une façon de réfléchir comme ça, qu'on cherche l'approbation des hommes? Eh bien, on veut complaire aux hommes, on veut s'attirer leur approbation ou se soumettre à eux pour éviter en partie des troubles, mais pour chercher leur approbation aussi. On dit oui, comme ici Joas, ok, puis on écoute ce qu'ils nous disent. On cherche un gain, on cherche leur approbation, on cherche notre aise ici-bas. On veut éviter les troubles que la vérité peut amener en proclamant la vérité. Paul y a beaucoup exhorté à ne pas faire cela. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 6, verset 6, on lit « Ne servant pas sous leurs yeux seulement comme voulant plaire aux hommes », donc cette expression « voulant plaire aux hommes », mais quoi? Mais comme esclave de Christ, faisant de cœur la volonté de Dieu. Et puis, il y a aussi dans Colossiens 3, verset 22, où on lit « Esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, ne servant pas sous leurs yeux seulement comme voulant plaire aux hommes, mais en simplicité de cœur, craignant le Seigneur. » Donc, la crainte des hommes fait en sorte que dans notre façon de réfléchir, on recherche l'approbation, on recherche un bénéfice, on recherche un intérêt tout à fait personnel. Qu'est-ce qui arrive? Quel est le résultat d'une telle approche? Eh bien, on est dans un chemin qui n'est pas nécessairement ou qui n'est pas selon la pensée de Dieu. Et puis, il y a des limitations à ce moment-là dans le service. Pourquoi est-ce que je dis des limitations dans le service? Parce qu'il se pourrait, c'est possible, qu'on fasse des choses qui sont selon Dieu, puis qu'on ait quand même des approbations selon les hommes. D'autres enfants de Dieu, on se dit, c'est bien, c'est parfait. Mais si on cherche juste ce qui est l'approbation des hommes, on va être très limité rapidement dans le service aussi. Parce que quand je parle d'approbation des hommes, c'est pas juste de ceux qui pourraient être aussi des chrétiens, ou des chrétiens de nom, mais de ceux qui sont des hommes dans le monde. Il est fort à craindre que si on cherche l'approbation des hommes, et que si nous avons l'approbation des hommes, qu'on soit sur un chemin qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Des hommes qui sont des ennemis de Dieu, qui blasphèment le nom de Christ, qui sont contre les choses de Dieu, la vérité, la sainteté et ces choses-là, ils sont d'accord avec ce qu'on fait? Ça ne va pas très bien. Donc, il pourrait y avoir ici aussi, dans cette crainte des hommes, quelque chose qui nous empêche, qui nous paralyse à servir pleinement Dieu. Parce que nos yeux, encore une fois, ne sont pas à la bonne place. Ils ne sont pas sur le Seigneur, ils ne sont pas sur notre Dieu, mais ils sont sur les hommes et le gain qu'on peut en retirer dans le temps présent. Joas l'a fait cela, et s'il a eu un gain momentané, quelle perte terrible il a fait à la fin de ses jours. Et puis pour l'éternité, on ne peut pas ouvrir le voile sur où il est présentement, mais quelle perte terrible il a fait à cause de son attitude. Il a fait ce qui était bien tous les jours de Jéhoïada, mais après la catastrophe. Donc, le Seigneur ne désire pas qu'on soit dans un chemin comme ça aussi, où on se laisse guider par l'opinion des autres, puis qu'on a tendance à faire davantage ce qui va être approuvé des autres. Le Seigneur, il veut qu'on soit un serviteur pour lui, où on a des comptes à rendre à lui, et que le service qu'on fait, c'est de lui, et non pas tout le temps regarder à gauche et à droite en se demandant qu'est-ce que les autres vont penser? Ou, je vais faire ça parce que je sais que je vais avoir l'approbation des autres. Alors que si je faisais ça, ce qui serait tout aussi juste, droit et bon, dans un service où il y a même des besoins pour Dieu, je vais pas le faire parce que... Mais on m'approuvera pas, je le sais. Puis peut-être que, pour retourner à la crainte des hommes, la peur des hommes du point 1 qu'on a vu, peut-être que je pourrais avoir des petits problèmes, puis j'ai pas envie. Hein? Pourquoi s'attirer des difficultés quand on peut faire quelque chose que, au moins, tout le monde va être content? C'est un grand danger pour nous. Mais maintenant, regardons aux conséquences pratiques. Eh bien, il va y avoir un service limité. Et puis, il pourrait y avoir aussi une douce discipline paternelle sur nous, pour nous amener à craindre Dieu seulement. Encore une fois, je fais exprès pour dire une douce discipline paternelle, pour pas qu'on ait une fausse impression que Dieu, il va agir comme un homme agirait. Disons-le comme cela. Encore une fois, le Seigneur, il désire nous libérer de tout fardeau, de tout poids, qui sont un empêchement à le servir lui librement, à être conduit par son esprit librement, et à faire en simplicité et avec joie et avec confiance devant Dieu ce qu'il met devant nous de faire, ses œuvres préparées d'avance. Notre façon de penser, notre façon de réfléchir, la crainte des hommes ou la recherche de l'approbation des hommes peuvent être tous des obstacles pour nous paralyser dans un vrai, heureux et joyeux service pour notre Dieu. Maintenant, regardons le quatrième point, la quatrième étape où il n'y a plus de paralysie ici, mais où nous trouvons la crainte de Dieu, le désir de rechercher justement l'approbation de Dieu. Eh bien, premièrement, on a un bel exemple dans les rois de cela aussi. On va lire dans 2 rois cette fois-ci, au chapitre 23, le second livre des rois, au chapitre 23, seulement le verset 25. C'est le roi Joas. Joas, on vient de le faire. Josias, on ne prendra pas le temps de tout lire, mais c'est magnifique qu'est-ce qu'il a fait pour Dieu pendant son court règne. Josias, on va lire seulement le verset qui résume son règne. 2 rois, chapitre 23, au verset 25. On lit ceci. Avant lui, il n'y eut pas de roi semblable à lui qui se fût retourné vers l'Éternel de tout son cœur et de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il ne s'en est pas levé de semblable à lui. Dans 2 rois 18:5, on trouve une expression similaire concernant le roi Ézéchias. Je vais simplement le lire rapidement dans le chapitre 18, au verset 5. On lit ceci. Que Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et après lui, il n'y en eut point de semblable à lui parmi tous les rois de Juda, non plus parmi ceux qui avaient été avant lui. La différence entre les deux, c'est qu'Ézéchias, il n'y a eu aucun roi comme lui qui a mis sa confiance en l'Éternel. Mais ici, on ne parle pas de confiance avec Josias. On parle d'un roi qui est revenu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force selon la loi de Moïse à l'Éternel. Exactement comme on trouve dans le Deutéronome au chapitre 6, au verset 5. Cœur, âme, force entièrement pour Dieu. Josias, il s'est donné dans un service actif, plein et entier. Ce n'est pas une question de confiance ici. Pour la confiance, Ézéchias, il n'y en a aucun autre. Mais pour le retour à Dieu d'un cœur entier, c'est Josias. Puis il n'y en a eu aucun comme lui. D'ailleurs, je vous encourage à lire ces chapitres. C'est beau de voir toutes les choses qui ont été faites par la grâce de Dieu. Et puis, lorsqu'il a su que la colère de Dieu allait venir à cause de leur désobéissance, il n'a pas fait comme « regarde, si de toute façon, c'est pour être la catastrophe, puis c'est la fin de tout. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Non, Josias n'a pas dit ça. Il a continué à faire avec zèle et énergie exactement ce qui était agréable à Dieu. Parce que Josias, il n'était pas là pour obtenir un gain personnel. Il ne voulait pas un gain de la part des hommes. Il ne voulait même pas un gain qu'on pourrait dire de la part de Dieu, en se disant « si je ne suis pas pour avoir anyway, des résultats positifs, autant laisser faire. » Non! Josias, il craignait Dieu puis avait le désir de faire ce qui est agréable à Dieu. On trouve des encouragements similaires dans le Nouveau Testament. Il y en a plusieurs, hein, comme dans Timothée. « Ne néglige pas le don de grâce qui est en toi. » On a aussi un autre verset dans Colossiens 4, 17, où Paul y avertit un frère. « Prends garde au service que tu as reçu dans le Seigneur afin que tu l'accomplisses. » Et puis dans Colossiens chapitre 1, verset 10, on est encouragé à marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu. On a des belles expressions, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant dans la connaissance de Dieu. C'est véritablement cela dont on a besoin, de grandir ainsi, de faire comme Josias, de craindre Dieu et d'agir avec ce seul désir de lui plaire, sans nous dire, ben justement, frère, je veux lui plaire, puis j'ai tellement peur de faire une gaffe. Non, on n'a pas compris. Ça, c'est la peur de Dieu, ça. La crainte de Dieu, c'est le désir de lui plaire, puis avancer dans cette simplicité-là, en sachant qu'on a un Père qui nous aime, qui veut nous conduire, qui veut nous encourager dans le chemin. Donc, quand on pense de cette façon-là, qu'est-ce qui se passe dans nos esprits, dans nos têtes, hein? Eh bien, on pense aux choses qui sont agréables à Dieu, justement. Et puis, on reçoit ses encouragements. On veut marcher dans les bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance, Éphésiens 2, 10. On sait qu'on a été créé pour cela même. On veut marcher dans la sainteté, la sanctification aussi devant Dieu, parce que Dieu, il est saint. Et puis, on veut marcher dans une pleine lumière, une belle communion ininterrompue avec lui. Et Dieu nous encourage en ce chemin-là. On obtient aussi un gain spirituel dans un tel service. Comme dans les proverbes, l'arroseur est arrosé. C'est exactement cela. En servant Dieu, on s'en retrouve nous-mêmes bénis, joyeux devant le Seigneur, même si c'est des choses qui sont toutes simples. Et puis, cette joie-là nous donne la force d'aller de l'avant. Parce que la joie du Seigneur, c'est notre force, comme on trouve aussi dans Néhémie, chapitre 8, au verset 10. Eh bien, c'est lorsqu'on a justement nos pensées occupées de ces choses-là qu'il y a un service, une activité pleine, heureuse et joyeuse qui peut se produire et l'approbation du Seigneur. Oui, mais s'il y a quelque chose qui doit être corrigé, qu'est-ce qui va arriver? Bien, le Seigneur, il va nous conduire avec toute douceur, par son esprit, nous enseigner des leçons douces pour nous encourager, nous faire comprendre. Il sait comment nous sommes, il sait de quoi nous sommes faits et il sait exactement comment nous parler pour nous conduire dans le droit chemin. Et puisque nous sommes déjà dans une activité heureuse et joyeuse devant lui, eh bien, cette direction nous sera agréable parce que nous saurons que ce sont les choses qui lui plaisent dans lesquelles il nous conduit positivement. Alors, le résultat, il est beau. Il est positif et les conséquences le sont aussi, les conséquences réelles. Il y a un service joyeux qui est fait. Le peuple de Dieu, il est édifié. Le corps de Christ est édifié. Et nous sommes aussi édifiés. Et puis, le peuple de Dieu, il est encouragé parce que tout ce service est utile à l'ensemble du corps de Christ. Il y a de l'encouragement pour tous, les frères et les sœurs. Et puis, il y a aussi de l'encouragement pour nous. L'arroseur est arrosé, encore une fois. Donc, il y a des bénédictions. Si on sème richement, on va moissonner aussi richement. Et puis, il y a de l'action, il y a des actions de grâce qui sont données à Dieu. Parce qu'on se sent utile, on se sent heureux et joyeux dans un service qui est fait et qui est en bénédiction aussi pour les autres. Et surtout, qui est approuvé de la part de Dieu. Parce que des fois, on ne voit pas non plus les résultats. On ne voit pas la bénédiction pratiquement en ressortir. On ne les voit pas, mais on sait... Nous savons, par les communications de l'Esprit-Saint, dans cette communion que nous avons avec Dieu, nous savons que nous sommes approuvés de Dieu parce que ce qui a été fait a été de lui et a été pour lui aussi. Donc, ce sont des choses qui sont très belles et très positives. Souvenons-nous de ce qui nous paralyse. Il y a deux grandes catégories qui nous paralysent, c'est la crainte, la peur de la désapprobation. Donc, la désapprobation de la part des hommes va nous paralyser. La désapprobation, la peur que Dieu va nous châtier si on fait la moindrement quelque chose de pas correct, c'est aussi quelque chose qui va nous paralyser. Donc, on a vu l'exemple de Sédécias pour la peur de l'homme. On a vu l'exemple du méchant esclave pour la peur de Dieu et les conséquences qui en ont découlé aussi. Pratiquement. Et puis finalement, l'approbation. Mais si on recherche l'approbation des hommes, eh bien, à ce moment-là, ça sera aussi un autre gros paquet de problèmes pour nous. On a un exemple de Joas ici. On a dit que ce n'était pas selon la pensée de Dieu le chemin dans lequel on va marcher dans un tel cas, et puis qu'il y aura des limitations dans le service. La discipline de Dieu peut venir aussi dans ces circonstances-là. Donc, voilà les trois grandes catégories qui nous empêchent de bien servir Dieu. On a la peur de l'homme, on a la peur de Dieu, on a complaire aux hommes. Ces trois choses-là vont faire en sorte qu'on va être paralysé, limité, même triste comme enfant de Dieu, et se poser continuellement des questions, être dans la crainte, être dans le doute, être dans des états que le Seigneur ne désire pas qu'on soit dans ces états-là, face au service de Dieu. Mais le Seigneur désire qu'on soit en simplicité devant lui, qu'on apprenne à le connaître, à voir qui il est véritablement. Dieu est amour, on trouve dans le Nouveau Testament. Eh bien, il désire que nous apprenions à marcher en simplicité, dans la pleine connaissance de son amour, pour que nous puissions aussi le servir dans la joie devant lui. Avoir des cœurs au large pour le servir. Bien sûr, conduit par son esprit. Bien sûr, on pourrait encore une fois aborder un paquet d'autres thèmes qui vont avec cela. Mais ici, seulement cette façon de voir les choses. Qu'est-ce qui occupe nos cœurs? Qu'est-ce qui fait qu'on est paralysé dans le service de Dieu très souvent? L'amour parfait chasse la crainte. Ça, c'est un beau verset qu'on peut retenir. L'amour parfait chasse la crainte. Quand on dit qu'il faut servir avec amour, il faut que l'amour soit le motif du service, il y a peut-être quelque chose qu'il faudrait mettre plus au clair quand on dit cette expression-là. C'est vrai qu'il faut qu'on ait un amour du Seigneur pour le service qui est fait, mais il faut surtout être rempli de l'amour de Dieu pour faire un service qui est libre devant le Seigneur. C'est-à-dire qu'on connaît l'amour que Dieu a envers nous et envers chacun des siens. Et cela nous libère des craintes. L'amour parfait chasse la crainte. Celui qui est dans la crainte n'est pas consommé dans l'amour. Mais l'amour parfait chasse la crainte. Et quand je comprends à quel point Dieu m'a aimé pour me donner son Fils, qui est mort sur la croix pour mes péchés, qui m'a aimé pour me donner toutes choses avec Christ en plus, eh bien, lorsque j'ai vraiment compris qu'il m'aime encore présentement de la même façon, ça nous libère et c'est une source de bénédiction pour nous de pouvoir regarder à Dieu, lui demander de nous conduire en toute simplicité et en toute liberté dans un service pour lui. La crainte est chassée et il désire nous diriger. Frères et sœurs, soyons encouragés et allons de l'avant avec foi, avec confiance dans le Seigneur pour sa direction envers nous. Ayons un œil simple, ayons un cœur pur, avec le désir de plaire au Seigneur à tous égards, et puis avançons avec confiance, connaissant son amour. C'est ce qu'il désire pour nous. Il va nous conduire dans tout service pour la gloire de son nom. Que le Seigneur nous fasse du bien, qu'il nous encourage à regarder à lui, et puis à aller de l'avant dans le service qu'il place devant nous. S'il y a la crainte des hommes qui vient devant nous, des fois on ne se rend pas compte activement que ces choses-là sont justement la crainte des hommes. Et puis qu'on se met à raisonner, puis à douter si le Seigneur nous conduit dans un chemin. Allons à lui dans la prière en toute sincérité, et demandons-lui de nous ouvrir les yeux si ce n'est pas justement la peur des hommes qui nous conduit. Ou si ce n'est pas peut-être la peur de Dieu qui nous freine, ça serait une mauvaise compréhension de qui est Dieu. Ou si ce n'est pas plutôt la recherche de l'approbation des hommes qui nous conduit. Demandons-lui d'ouvrir nos yeux et d'en purifier nos cœurs de cela, de l'ôter et puis de nous tenir en toute simplicité devant lui. Le Seigneur désire nous utiliser. Il vient bientôt. Il y a beaucoup de travail, les champs sont blancs, la moisson est grande. Prions pour qu'il y ait des ouvriers et soyons devant le Seigneur disponibles pour être de tels ouvriers dans son service. Ce sera à la gloire de son nom et il désire nous conduire dans un tel service. Il nous donnera encouragement et il nous donnera aussi la direction en toutes choses. Que le Seigneur nous encourage, chacun d'entre nous, à regarder à lui et à être des serviteurs disponibles entre ses mains. Que le Seigneur bénisse sa parole à chacun de nos cœurs.